Je crois qu'il y a eu des progrès. On est passé de la rencontre au dialogue, on s'est écouté, on s'est regardé. Seulement, le problème que nous avons maintenant, c'est que tous les petits résultats que nous avons obtenus n'ont jamais inspiré ni les lois, ni les règlements administratifs, et encore moins la rue. Alors ça demeure quand même un dialogue au niveau des élites. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, vous avez dans les textes des livres d'histoire qui sont enseignés dans les pays du Golfe. Quand on parle des chrétiens, on dit les musulmans et les chrétiens, on dit les musulmans et les malcroyants. Non, ça ne va pas. Et non, ça suppose beaucoup de patience. Je dis, le dialogue interreligieux suppose une patience géologique.
Donc jusqu'à présent, un dialogue avec, entre guillemets, des personnes convaincues, des leaders religieux musulmans convaincus, le défi aujourd'hui est de relayer le message à la base.
Voilà. Et je crois que et ça se fait ça à travers la famille, et l'école et l'université. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais il est sûr que là, ce qui est en train de se passer, ce terrorisme dans lequel on essaie d'impliquer la religion, est quand même une chose qui fragilise notre crédibilité. Comment est-ce qu'on peut parler de dialogue quand on torture les chrétiens, les minorités, enfin.
D'ailleurs, face aux persécutions dont sont victimes les chrétiens dans le monde, suite aux différents attentats, beaucoup ont perdu confiance dans ce dialogue. Vous les comprenez? Quels mots leur adressez-vous?
Il n'y a pas d'alternative, ou c'est la guerre ou c'est le dialogue. Donc, je crois qu'il faut surtout résister à la peur, parce que la peur naît de l'ignorance. La plupart des gens, par exemple en France en particulier, je suis toujours frappé de voir combien les Français ont peur des musulmans. Mais ils n'ont jamais rencontré un musulman, ils n'ont jamais ouvert un Coran, donc ils ne savent pas trop ce que c'est. Et c'est la même chose pour les musulmans par rapport aux chrétiens. Donc il faut se connaître, il faut prendre le temps de se connaître. Puis moi je dis toujours, Dieu nous a fait deux cadeaux extraordinaires. Une intelligence pour comprendre et un cœur pour aimer. Avec l'intelligence et le cœur, on peut transformer le monde.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le monde musulman, un monde qui apparaît de plus en plus divisé?
Oui, ben, il y a la grande coupure entre l'islam chiite et l'islam sunnite. C'est un problème qui regarde les musulmans, ça, nous n'avons pas à intervenir. Mais c'est sûr qu'avec par exemple, l'islam chiite, nous avons de bonnes relations. En particulier, les Iraniens ont traduit le catéchisme de l'Église catholique en langue farsie pour nous connaître. Ça, c'est une chose qui est très belle.
Avec les sunnites, c'est tout un autre discours.
Oui, avec les sunnites, nous sommes encore pour parler, pour la visite du grand imam de l'université Al-Azhar du Caire, mais pour le moment, nous sommes encore en haute mer.
Or, un véritable dialogue ne peut exister que s'il y a ces deux entités.
Bien sûr, on ne peut pas favoriser l'un au détriment de l'autre. Le problème, c'est que l'islam, il n'y a pas d'autorité centrale qui puisse interpréter.
Vous n'avez eu de cesse de rappeler la nécessité du dialogue interreligieux. Ces dernières années, quelles ont été les étapes décisives, les faits marquants de ce dialogue?
Oh ben, il y a eu d'abord la lettre des 138 personnalités musulmanes ou chrétiennes.
En 2006, après Ratisbonne.
Voilà, après Ratisbonne. Et puis, nous avons des rendez-vous fixes, par exemple avec la Libye, avec la Jordanie, avec les Iraniens. Et aussi, il faut mentionner toutes les autres religions. Nous ne pouvons pas seulement l'islam.
Aujourd'hui, quels sont les principaux espaces de dialogue?
Pour le moment, je ne vois pas très bien comment nous allons sortir de cette situation. Ce qui est très frappant, c'est que nous sommes dans un monde précaire. Tout est précaire, y compris nos réunions. Enfin, on ne sait pas trop. Moi, je suis frappé par le nombre d'hommes politiques, de responsables politiques qui viennent au Vatican pour chercher des idées et personne ne sait où on va. Sinon, il y a une chose qui est évidente et très grave, c'est que le Moyen-Orient n'existe plus. Parce qu'il n'y a plus ce pont que faisaient les chrétiens. Il faut songer, en 1910, il y avait 20% de la population qui était chrétienne au Moyen-Orient. Aujourd'hui, à peine 4%. Ça veut dire que les pays européens sont en contact direct avec les pays musulmans. Il n'y a plus cette espèce de buffer zone, non, qui faisait que les chrétiens étaient les médiateurs, en quelque sorte. Et ça, je crois que ça a des conséquences. Ça aura des conséquences assez graves.
Vous avez toujours été très incisif, très confiant, encourageant. Je vous sens là beaucoup plus préoccupé.
Oui, parce qu'on est dans un monde, comme je disais, qui est précaire. On ne sait pas. C'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle.
Vous êtes en contact direct et régulier avec le pape François. Il témoigne de cette grande préoccupation. Il le témoigne au monde. Il vous en parle également?
Oui, le pape François était convaincu de la nécessité du dialogue interreligieux. Il en parle presque tous les jours, c'est sûr. Et il nous soutient beaucoup. Oui.
Vous êtes aujourd'hui donc un proche collaborateur du pape François. Vous l'avez été de Benoît XVI, mais aussi de Jean-Paul II.
Surtout Jean-Paul II, oui.
Comment avez-vous perçu cette approche du dialogue interreligieux, qu'il s'agisse du pape François, Benoît XVI ou Jean-Paul II ?
Alors, Jean-Paul II était surtout très branché sur le dialogue avec les Juifs, pour des raisons personnelles, enfin, de son histoire. Benoît XVI, et c'est le pape qui a parlé le plus de l'islam, il a fait 181 interventions entre discours, livres, articles, etc. Il a visité 3 mosquées. Et ce pape-ci, évidemment, a parmi ses amis intimes des musulmans, des juifs. Mais il y a une sorte de continuité. Dans le fond, le pape, les gens venaient voir le pape Jean-Paul II, ils venaient écouter le pape Benoît XVI, ils venaient toucher le pape François. Parce qu'il a ce pape, ce caractère immédiat, non, il veut rencontrer les gens, toucher.
Une dernière question, Éminence. Qu'aimeriez-vous que l'on retienne de votre mission, de votre parcours au service du Saint-Siège ?
Je voudrais qu'on dise de moi, il a été un serviteur.